Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est comme un devoir d'inventaire, capter la réalité avant qu'elle ne disparaisse. La réalité de ces espèces qui, petit à petit, s'effondrent à cause de nos modes de vie. Oui, c'est culpabilisant, mais il faut regarder la vérité en face. Nous détruisons les forêts, nous déréglons le climat, nous étalons nos villes et nous polluons l'air et l'eau. Certes, le niveau de responsabilité n'est pas équitablement partagé. La vie quotidienne d'un habitant au fin fond de la Guinée forestière n'a pas le même impact qu'un hipster new-yorkais. Mais l'un ne compense malheureusement pas l'autre. Nous avons déclenché la sixième période d'extinction massive de la biodiversité, un phénomène qui mobilise nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Alain Ernoux.
Bonjour.
Vous êtes photographe depuis, allez, on va le dire, plus de 30 ans maintenant.
Eh bien oui, déjà.
Vous avez plongé en eau profonde pour photographier des murènes géantes de plus de 3 mètres. Vous avez couvert des conflits en Afghanistan, en Bosnie ou encore au Tchad. Vous avez publié plus de 25 livres, réalisé des expositions aux quatre coins de la planète, reçu des grands prix pour des couvertures de magazines comme le premier prix World Press Photo. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous puisque vous publiez un magnifique ouvrage qui s'appelle « La sixième extinction, le règne animal en péril » chez EPA. Alors c'est un livre de photos en noir et blanc, au plus près de nombreuses espèces que vous avez photographiées droit dans les yeux. C'est votre parti pris.
Ah oui, absolument. Je voulais créer dans ce livre une émotion. Et la première émotion qui arrive, c'est la communication qu'on peut avoir avec l'animal. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une espèce de méditation pour que l'animal nous accepte, et pas le contraire. Et dans ces moments-là, on peut avoir des échanges très privilégiés dans le regard, l'émotion, et ça crée une tension très, très agréable.
Donc le regard, c'est vrai que nous sommes des mammifères, par exemple, là, on se parle, on se regarde, et c'est vrai que ce regard, ça interpelle, parce que c'est un mode de communication extrêmement puissant.
Ah bah, le regard de l'animal, il est incroyable parce qu'il peut dire beaucoup de choses en tant que l'homme, en fait, si on regarde bien. Et en fonction de son regard, j'approche ou j'approche pas. Malgré que des fois, j'ai eu des charges d'animaux, il faut sentir les choses au plus profond de l'animal. Et lorsqu'on est vraiment en communication avec lui, il peut accepter beaucoup de choses.
On va revenir sur vos aventures à vos côtés, comme Guirchik, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 25 ans, c'est bien ça?
C'est ça.
Vous avez représenté la France au sommet de l'ONU des jeunes pour le climat. Vous avez fondé l'association Les Jeunes Ambassadeurs pour le climat, qui sensibilise du collège aux entreprises aux enjeux de la transition écologique. Vous avez fondé aussi un collectif de citoyens contre la 5G. En résumé, vous êtes un jeune engagé. Et vous venez de préfacer, du coup, Nature humaine, un livre qui réunit les magnifiques images de 12 photographes primés de National Geographic. C'est publié aux éditions du Chêne. Alors pour vous, la photo, c'est un moyen de se reconnecter justement à l'émerveillement que peut provoquer la nature. C'est ce que vous dites en gros dans cette préface.
Oui, c'est exactement ça. Bien souvent, quand on aborde les questions de sensibilisation à la biodiversité, on a tendance à l'aborder par le chiffre. C'est devenu une mode un petit peu, une façon de gouverner, mais aussi une façon d'acquérir la connaissance que de parler de chiffres. On connaît les chiffres de l'IPBES, par exemple, donc cet ensemble d'experts qui traitent de biodiversité, qui nous explique que 68% des forêts ont disparu, que 50% des coraux ont disparu, qu'on va perdre 1 million d'espèces. Mais en fait, en accumulant ces chiffres, au bout d'un moment, ils perdent un peu de leur sens parce qu'on vit dans une société qui est en permanente accélération exponentielle ou effondrement exponentiel, et donc ça n'a plus de sens. Et je trouve du coup que le vecteur de la photographie permet justement de se reconnecter à une réalité extrêmement précise et personnelle, comme celle que montre par exemple Alain Ernoux dans ses photos, où on voit qu'il y a un lien direct de personne à personne, j'allais dire, même si on ne qualifie pas encore en général les animaux de personnes, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc c'est la reconstruction effectivement de ce lien vivant qui est nécessaire, aujourd'hui.
Alors, vous parliez des chiffres et de ce rapport de l'IBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est vrai que cette plateforme avait brandi un peu ce chiffre de 1 million d'espèces menacées d'extinction. Alors, je vous propose d'écouter les explications de Yun Shin. Elle est directrice de recherche à l'IRD et elle a coordonné justement le chapitre 4 de ce rapport.
Oui, alors ce chiffre, il paraît peut-être un peu abstrait pour le grand public. 1 million, c'est beaucoup, hein. S'il faut resituer, c'est 1 million sur 8 millions d'espèces recensées déjà. Donc c'est 13% des espèces vivantes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la vitesse d'extinction. Donc la vitesse d'extinction est de l'ordre de 10 à 100 fois le taux d'extinction naturel. Donc on est dans une ère où, effectivement, en très peu de temps, on a un impact majeur, quand je dis « on », ce sont les activités humaines, on a un impact majeur sur notre biodiversité, sur l'environnement, sur les habitats. Alors quand on parle d'extinction, ce sont les espèces qui sont menacées d'extinction, mais il y a aussi un tas d'autres changements majeurs qui se passent dans les écosystèmes. Il y aura des bouleversements de richesses spécifiques, de compositions spécifiques, d'assemblages. Il y a des espèces qui vont devenir de plus en plus petites, par exemple. Il y a d'autres espèces qui perdent leurs habitats, d'autres espèces qui vont changer, qui vont bouger vers les pôles à cause du changement climatique. Donc ce chiffre-là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de ce chiffre symbolique d'extinction des espèces.
Voilà ce qui se passe derrière les chiffres pour faire écho à votre remarque, Komgir Shig. Alain Hernoux, vous qui êtes allé à la rencontre de la vie sauvage aux quatre coins de la planète, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ?
Je pense qu'il est très important d'en prendre conscience rapidement, parce que de toute façon, tout est lié. L'homme et les animaux, la nature est liée. C'est indissociable. Donc si on ne nous enrichissons pas aujourd'hui, ça va être catastrophique, par exemple. En Afrique du Sud, suite à la démographie, l'augmentation des cultures et les pesticides, il y a eu 60% des vautours qui ont disparu en 10 ans, et également les hyènes, ce qui a provoqué que le nettoyage naturel n'est plus fait, et que la rage est revenue chez l'homme, et qu'il y a beaucoup de morts d'hommes par la rage en Afrique du Sud qui avait totalement disparu.
C'est un phénomène qu'on a observé en Inde aussi.
Ouais. Donc tout ça est très très lié, donc il y a des choses qui se passent, et ça va extrêmement vite surtout. Il y a une période, effectivement, c'est un peu plus latent. Aujourd'hui, tout s'accélère à une vitesse incroyable.
Est-ce que vous l'avez observé à l'œil nu, puisque vous êtes allé beaucoup vous confronter à cette faune sauvage durant ces dernières décennies ?
Oui, j'ai commencé à voyager à 17 ans. Je suis parti de Normandie en autostop pour aller rejoindre le Mali et la tribu Dogon, parce que j'avais entendu parler qu'ils mouraient du palu. Et je partais avec des médicaments, donc j'ai traîné beaucoup en Afrique, je dormais par terre, donc j'étais réveillé par les animaux sauvages qui venaient me voir, les hyènes et tout ça. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui m'a surpris quand je suis retourné plusieurs fois après, il n'y a plus d'animaux sauvages dans ces coins-là. Il y a un peu de girafes au Mali, mais c'est tout, quoi. Tous les animaux sauvages ont disparu. C'est une catastrophe. Puis il y a eu des transferts, les animaux ont bougé géographiquement. Quand on voit à Bornéo, il y a 2/3 de la forêt qui a disparu, donc les orang-outans ont disparu, ont diminué de 50%, donc ils n'ont plus d'habitat. Enfin, ce sont des choses très tristes, quoi, je trouve.
Alors, Komgir Shig, vous qui faites de la sensibilisation sur tous ces enjeux-là, c'est vrai qu'on parle de chiffres, on parle de Bornéo ou de l'Afrique du Sud, alors que finalement, ce ne sont pas les habitants, on en parlait tout à l'heure, mais de Bornéo ou les Sud-Africains qui vont forcément avoir le plus d'impact. C'est nous aussi, mais dans nos villes, donc on ne se rend pas bien compte, en fait. On est loin de cette faune sauvage.
Oui, exactement. Pour moi, c'est le problème de nos organisations sociales actuelles, c'est qu'on vit connecté au monde entier par les ressources que l'on consomme, les matériaux qu'on consomme, les ressources premières agricoles que l'on consomme. Et il est très compliqué, en fait, d'avoir une vision nette de cet impact-là. Récemment, le Haut Conseil pour le climat a émis son rapport sur l'empreinte carbone des Français, qui distingue donc l'inventaire carbone des Français, c'est-à-dire les émissions produites par les Français sur le territoire national, et l'empreinte carbone qui prend en compte les émissions à l'étranger. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que plus de la moitié de notre impact carbone est fait à l'étranger. Et en fait, l'impact sur la biodiversité répond à la même logique, c'est-à-dire qu'on peut faire très attention aux pratiques agricoles qu'on adopte en France, et même ça, c'est pas le cas, on l'a vu récemment encore avec le retour en arrière sur les néonicotinoïdes, mais si on ne prend pas garde aux techniques agricoles qui sont employées sur les produits qu'on importe d'autres pays, comme par exemple de la Malaisie, c'est un thème qui est abordé dans le livre Nature humaine, où on voit les ravages provoqués par les cultures de palmes, par exemple, qui heureusement est devenu un sujet d'actualité en France, mais très très tardivement. Si on n'a pas ce regard-là et si on n'a pas conscience de la distance en fait qui sépare notre consommation et leur origine, alors on fonce dans le mur. Et aujourd'hui, les chiffres qu'on observe et que vous avez encore mentionnés sont la conséquence directe de cette rupture de connexion entre notre consommation, notre mode de vie et ses racines.
Mais ça demande une éducation colossale, parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte d'achat, on doit se dire, alors quel est l'impact de ce que j'achète? Et puis, c'est extrêmement complexe, les circuits, en fait. Il y a un sujet dans un sujet dans un sujet.
Effectivement, c'est de plus en plus complexe, et rien n'est fait pour se détacher de cette complexité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. La 5G, pour moi, va être une strate supplémentaire dans la rupture de cette connexion, où, en fait, dès lors qu'on automatise les choses, par exemple, si la 5G vous permet d'automatiser vos courses, les courses que vous faites, vous n'avez plus aucun moyen en fait, de contrôler véritablement ce que vous consommez. Mais après, et c'est justement à ça que sert pour moi la photo, la cinématographie, etc., il faut aussi se fier à une part à notre intuition. Et je pense qu'aujourd'hui, on refuse de laisser s'exprimer cette intuition. Et ce qui fait que quand on va faire des courses et qu'on va chez Carrefour ou chez Monoprix ou d'autres grandes enseignes, on n'a plus aucune idée des réalités sociales, écologiques qu'il y a derrière. Et même si l'agriculteur qui produit du lait gagne moins de 300 euros par mois, ce n'est pas notre problème. Et c'est ça qui est grave.
Alors, quand même, il y a des personnes qui, depuis des années, essayent de sensibiliser. Hein. Donc, on est avec Alain Ernoux aujourd'hui, mais nous avons reçu il y a quelque temps le photographe Sebastião Salgado, que vous connaissez certainement tous les deux, qui est donc franco-brésilien et qui sillonne le monde depuis 40 ans pour le faire découvrir, lui aussi, en noir et blanc. Il utilise désormais son regard pour nous sensibiliser à la fragilité de la nature. Et nous l'avions reçu il n'y a pas très longtemps pour une exposition à Paris.
Un photographe qui fait des reportages, il est un peu un miroir de sa société. On va faire des photos parce qu'on a besoin de ces photos. Et principalement quand on travaille dans le photojournalisme, avec la presse. Et donc, comme vous parlez d'overdose, c'est là qu'on navigue. On navigue sur le haut de la vague de l'histoire, étant photoreporter. Les journalistes, ils peuvent écrire, préparer leurs papiers presque de manière indirecte, en prenant des sources, en se renseignant. Mais un photographe, non. On a les images que si on est là, au contraire, on ne les a pas. Et donc, on est bien obligé d'y aller.
Le photographe Sébastien Salgado dans C'est pas du vent sur RFI. Alain Ernoux, ce que disait Sébastien Salgado, c'est que le principe du photographe, c'est qu'il doit aller au plus près de l'objet. C'est ce que vous faites dans votre livre et c'est ce qu'on voit aussi dans le livre Nature humaine. C'est-à-dire que les photographes sont... On peut pas, à la radio, par exemple, on peut enregistrer le son d'un peu loin. En presse écrite, on peut écrire un article en observant. Quand on veut faire une photo, il y a les téléobjectifs, mais malgré tout, vous avez le choix d'aller, vous avez fait le choix d'aller au plus près de vos sujets.
Alors moi, je pense qu'une photo au téléobjectif sur les animaux, c'est beaucoup moins intéressant. Parce qu'elle écrase, elle garde une distance avec l'animal, qu'il faut, pour moi, se rapprocher très proche au grand angle pour capter justement ses émotions. Et on ne peut pas tricher. Avec la photo, on ne peut pas tricher. La photo, elle est là ou elle n'est pas là. Et donc, il n'y a pas...
Vous avez même pris des risques.
Oui, on est obligé de prendre des risques. Donc, les animaux... j'ai eu plusieurs petits problèmes avec les animaux. Quand je suis allé faire des gorilles au Rwanda... Le guide m'a laissé approcher, à l'époque il n'y avait pas de problème de pandémie, donc très très près des gorilles, à un mètre. Donc je me suis installé, j'étais totalement fasciné par le regard, l'échange. Et à un moment, le mâle dominant, il est venu me donner un grand coup de poing en me disant « Maintenant tu dégages, t'es trop près ». Mais il arrive de me tuer, il m'aurait tué. Et ça m'est arrivé aussi en Afrique du Sud, où j'ai voulu photographier un petit rhino, ça faisait que 100 kilos. Mais pour moi, il était petit par rapport à ses parents, je me suis mis à genoux et il est venu me charger. Et j'ai mis l'appareil, le bruit de l'appareil qui a cassé, l'arrêt était net, mais c'est le risque à prendre pour avoir des bonnes photos aussi.
Et du coup, ça a créé aussi une certaine humilité, parce que finalement, vous étiez dans leur élément et pas tellement dans le vôtre.
Parce que c'est ce qu'on appelle la zone de confort chez l'animal. Il y a une zone à ne pas dépasser normalement, et où l'animal se sent en sécurité, et cette zone de confort, on la sent pas, et puis des fois on est tellement dans l'objectif, on a tellement envie de capter ce qui ressent, puis partager. Enfin, moi c'est du partage, je suis passeur d'image en fait. Mon métier c'est passeur d'image. J'ai envie de le partager, donc des fois je prends des risques pour approcher évidemment.
Alors ce genre d'expérience comme Gershik, ça nous rappelle que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres, hein.
Oui, complètement. Et je trouve ça très touchant, ce genre d'expérience, parce qu'elles sont trop rares aujourd'hui, trop rarement racontées, même dans l'imaginaire collectif. C'est pas le genre de choses qu'on entend suffisamment. On parle peut-être des expériences, je sais pas, avec notre chat ou notre chien, mais ce genre d'expérience où on découvre vraiment une personnalité forte qui nous est complètement inconnue, elle est quasi absente dans le discours public. Et notamment, dans le livre Nature humaine, il y a un peu ce même genre d'expérience qui est mentionné par Paul Nicklin, où il rencontre un léopard de mer et où il explique justement un peu comme ça dégénère, il essaye de comprendre ce que veulent lui expliquer les léopards de mer. Est-ce qu'ils veulent le charger? Est-ce qu'ils veulent du mal? Est-ce qu'ils veulent essayer de le nourrir? Est-ce qu'ils veulent l'aider? Il n'arrive pas du tout à comprendre, et pendant plusieurs jours, en fait, il est en plongée sous-marine avec son appareil photo. Il a beaucoup de mal à comprendre. Et je trouve cultiver cette curiosité avec l'animal dans son monde à lui, et pas comme nous avec nos animaux domestiques, où en fait on les cadre tellement que c'est plus des animaux, c'est des projections de nous-mêmes. C'est très intéressant, et ça permet de ne pas oublier qu'on est juste un animal parmi d'autres. Un bel animal, je pense, mais un animal parmi d'autres.
Vous êtes d'accord avec ça, Alain Arlen?
Oui, je pense qu'on est un animal aussi sauvage, et surtout plus intelligent, mais je me demande si l'animal n'est pas plus intelligent de la manière qu'il s'adapte, qu'il se réinvente aussi.
Alors, plus intelligent, ça se discute, hein. Il y a différentes formes d'intelligence, on en a souvent parlé dans cette émission. Allez, on se fait une petite pause musicale en compagnie de Julie Rousseau, qui chante justement « Photographie ».
Jamais il ne me sourit. Abstrait, flou et fuyant. Il est parti, déjà parti. Fini la photographie. Fini de poser. C'est sur exposer. Gros plan, clair obscur.
Partout, des clichés partout, des clichés partout, des clichés partout, des clichés partout. Close up the bright shadow.
biographie de Julie Rousseau dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque, en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesque qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon, en lui expliquant « ouais, c'est pas de bol hein. ». Et on s'est rendu compte que c'était grotesque, et maintenant tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire, c'est ça la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
Redéfinir le grotesque par Fra, le chanteur de Chacapon que l'on salue au passage. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du grand reporter et photographe Alain Hernoux qui vient de publier la 6e extinction, le règne animal en péril chez EPA, et de Côme Guerchig, un militant engagé qui vient de signer la préface de Nature humaine, un livre qui réunit les magnifiques images de 12 photographes primés de National Geographic aux éditions du Chêne. Alors vous l'avez dit tous les deux, la photographie est un moyen de nous reconnecter au vivant, de ressusciter un émerveillement enfoui par nos vies urbaines. Mais parfois, les images peuvent être trompeuses, comme nous l'explique l'écologue et directeur de recherche au CNRS, Franck Courchamp.
On a fait une étude récemment qui visait à essayer de lister les espèces qui plaisaient le plus. Alors c'était plus pour un public occidental, européen, américain, qui ont listé une vingtaine d'espèces qui sont souvent des grands animaux, des grands mammifères même pour la plupart, beaucoup d'animaux africains, qui sont les animaux préférés, les chouchous des gens qui ont répondu à cette étude. Et on s'est aperçu que ces animaux étaient tous très mal en point, tous menacés d'extinction à relativement court terme. Alors on parlait du tigre, du lion, de l'éléphant, de la girafe, des gorilles, etc. Et on s'est aperçu non seulement que c'était un peu paradoxal que ces animaux que les gens aiment disparaissent, mais on s'est aussi aperçu que les gens ne savaient pas que ces espèces étaient menacées. Ces animaux qu'on connaît très très bien, on se demande pourquoi est-ce que ils disparaissent, pourquoi est-ce qu'on les laisse disparaître et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'ils disparaissent. Et en fait, on ne sait pas qu'ils disparaissent et c'est pour ça qu'on ne cherche pas à les protéger. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'ils disparaissent alors qu'on devrait bien les connaître puisque c'est nos animaux préférés? Parce qu'on les voit partout en virtuel, parce que c'est nos préférés. Donc ils sont partout dans la culture et dans le marketing. Ils sont sur tous les t-shirts, toutes les boîtes de céréales, sur toutes les affiches, sur tous les drapeaux, dans tous les dessins animés. Et donc on a l'impression qu'on voit tout le temps ces animaux et qu'ils ne sont pas menacés. On a l'impression que les girafes, c'est relativement commun. Alors que les girafes, par exemple, une des espèces de girafes, la girafe nubienne, a perdu 97% de l'espèce en 35 ans seulement.
Et donc ce que vous dites, c'est que si ça continue comme ça, on ne les verra plus que dans le virtuel?
Voilà, alors peut-être qu'on les verra dans des zoos, ils peuvent être protégés de manière in vitro, mais à l'état naturel, on sait déjà, avec des modèles, que si on continue sur cette même trajectoire, par exemple les lions, on en a pour à peu près 20 ans, si on ne change pas la manière dont on est en train de gérer les populations de lions. Le lion, c'est le roi des animaux. C'est l'espèce emblématique par excellence dans tous les pays. En Afrique, c'est même l'emblème de plusieurs pays. Il est dans toutes les histoires, tous les dessins animés, tous les logos d'entreprises. Si on perd le roi des animaux, s'il n'existe plus, quel espoir a-t-on de sauver une petite plante à Sumatra ou un petit poisson vers Bornéo?
Et on ne parle pas des insectes.
Exactement.
Voilà, quand le virtuel transforme dangereusement notre vision du réel, Alain Hernoux, c'est vrai que dans votre livre, si on regarde votre livre par exemple, ou quand on regarde le livre Nature humaine, on se dit bah, c'est formidable, ces animaux sont magnifiques, puisque vous les avez pris en photo, ça va, ils vont bien.
Oui, mais il a fallu les trouver et les chercher aussi. Et ce qui m'inquiète le plus, je pense qu'on est à la frontière entre l'image réelle et l'image de la mémoire qui va arriver bientôt. Et c'est ça qui me fait très peur. Et je pense qu'on devrait faire un travail dans les écoles déjà de sensibilisation sur la biodiversité. On ne fait pas assez aujourd'hui. Montrer des photos d'animaux, leur expliquant combien il en reste, les suivre et tout. Et c'est pas encore un sujet qui arrive dans l'enseignement en France. Et je suis un peu surpris de ça d'ailleurs.
Dans votre livre, alors vous, pour le coup, vous ne faites pas la même chose, parce que c'est vrai que vous avez vos photos, mais à chaque fois, il y a une petite légende qui contextualise, par exemple, l'éléphant d'Afrique, il en reste tant, voilà quelle est la situation.
Je fais un inventaire, effectivement, je fais un inventaire, parce que... Mais je pense que la prise de conscience n'est pas encore tout à fait réelle aujourd'hui, et qu'on est y a encore du chemin à faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement offrir mes photos, ce que je fais beaucoup... Pour les associations, j'offre les photos pour financer des projets aussi. Et je pense qu'il faut qu'on ait de plus en plus ce genre d'action pour qu'il y ait une espèce de cohésion entre nous tous. Pour, on n'est pas, on, même si le photographe n'est pas nature quelqu'un d'être très indépendant, il faut partager, transmettre, et c'est le moment ou jamais.
Alors c'est vrai que comme Gershig, je le disais en introduction de l'émission, vous avez fondé un collectif de citoyens qui porte plainte aujourd'hui contre les quatre opérateurs français de la téléphonie, parce que vous souhaitez que la lumière soit faite sur les risques de cette nouvelle technologie qu'est la 5G. La 5G, il faut rappeler rapidement ce que c'est, parce que ça va participer à virtualiser notre monde, justement.
Oui, exactement. Alors décrire la 5G en quelques secondes, c'est
vous
difficile.
Avez deux
c'est, voilà, c'est, j'ai deux minutes. Bon, c'est une nouvelle infrastructure de réseau de télécommunications qui permettra d'une part d'accélérer les échanges existants comme la 4G mais en beaucoup plus rapide, et aussi de développer ce qui s'appelle l'internet des objets. Et parmi les applications directes prévues par les autorités françaises, il y a notamment apparemment quelque chose de très important qui est la réalité virtuelle sans fil. Autrement dit, ça veut dire se promener dans la rue ou peut-être chez soi, avec des lunettes qui reproduisent une réalité alternative, augmentée, avec d'autres informations. Et je pense que on a là, et c'est pas une caricature, c'est vraiment, on a là un symptôme justement de notre incapacité à faire face au réel tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en voie d'effondrement extrêmement rapide. Et quand vous disiez, Alain, que la prise de conscience n'était pas réelle, moi j'irais au-delà, c'est que la prise de conscience n'est pas. Et que dans les écoles aujourd'hui, on apprend plus à réciter les fables de La Fontaine ou faire du calcul, ce qui est très bien, et bien sûr il faut continuer, qu'à reconnaître des animaux. Et la grammaire qu'on a pour comprendre la nature aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée par l'école, elle est nulle. On apprend ce que c'est qu'un lion, ce que c'est qu'une girafe, mais ça s'arrête là. On n'a aucune subtilité dans notre façon
d'apprendre. Par exemple, la notion d'écosystème, ce que disait Alain tout à l'heure, c'est que chaque espèce dépend d'une autre et ça va de la bactérie à l'éléphant, quoi.
Voilà, et comprendre que le corps humain est un écosystème, c'est quelque chose qui aujourd'hui soit n'arrive pas, soit arrive dans les études supérieures. Mais on a une grande, grande marge de progrès dans l'éducation nationale dans ce domaine-là. Et c'est ce que fait, du coup, entre autres, mon association, mais plein d'autres. D'autre, c'est de compenser ce manque-là et d'une part de favoriser le déclic, la prise de conscience. C'est pour ça que je ne suis pas forcément très d'accord avec le professeur du CNRS qui met un peu ensemble toutes les représentations animales. Pour moi, il y a une grande différence entre le Disney, le Roi Lion, et une image comme celle que peut prendre Alain Ernoux. Il y a une grande différence de perception de l'animal, et mettre les deux représentations sur le même plan. Voilà, je pense que si la photo...
C'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit, en fait, il parlait pas des images d'Alain Ernoux. Il disait, en fait, en gros, il y a des entreprises qui prennent des logos, il y a des paquets de céréales. Enfin, partout, on voit ces animaux dans notre vie quotidienne. Et du coup, ça casse cette image qu'ils sont en danger.
Mais justement, il y a une grande différence entre voir un animal sur une bouée en plastique de piscine et voir un animal dans un livre de photos en noir et blanc qui montre un regard puissant et qui explique dans la description que cet animal est en voie d'extinction. C'est juste, c'est pas comparable, et on peut pas parler d'omniprésence d'une sorte de représentation de l'animal unique. C'est pas vrai. Et je pense que le problème, c'est peut-être effectivement qu'on représente trop, qu'on utilise trop l'image des animaux dans les produits de grande consommation, et qu'on n'expose pas suffisamment ce regard, le regard par exemple de photographes comme M. Ernoux dans les médias, etc. Mmh. Oui, ça sûrement.
Et alors, pour revenir à cette histoire de 5G, pourquoi est-ce que vous êtes inquiet ?
Je suis inquiet parce que je suis inquiet pour deux raisons. La première, c'est que je pense que la méthode qui a été adoptée pour déployer cette technologie est symptomatique d'une démocratie qui est en train de perdre de la vitesse, parce que personne n'a réellement décidé ça, si ce n'est la Commission européenne et quelques grandes entreprises. Il y a un manque réel de débat public, un manque d'appropriation d'une infrastructure qui n'est pas juste une simple continuation de la 4G, comme je l'ai expliqué, c'est aussi une matrice qui va permettre le déploiement des objets connectés, et je pense que ça mérite discussion, tout comme ça aurait mérité discussion avant le plan Messmer, où on a déployé l'industrie nucléaire en France. Et l'autre point, c'est la technologie elle-même qui est présentée comme le progrès, c'est-à-dire la voie normale du progrès. Et je pense, notamment pour la raison dont on a discuté juste avant, que voilà, elle est censée, par exemple, développer la téléchirurgie, les voitures autonomes, la réalité virtuelle sans fil, le débit HD partout, où qu'on soit dans la rue. Il y a sûrement de grandes avancées là-dedans. Par exemple, la télémédecine peut être considérée comme un usage qui est réellement légitime, mais est-ce que c'est pas possible de le faire avec la fibre, par exemple? Et d'autres paraissent décorrélées de l'état du monde aujourd'hui, et notamment de l'état en termes de climat et de biodiversité.
Et puis avec ce risque permanent de l'accélération, quoi. Alain Ernoux, le temps de la photo, c'est un temps, évidemment parfois ça peut être le feu de l'action, mais pour obtenir les photos que vous avez obtenues sur tous ces animaux-là, j'imagine que c'est du temps.
C'est de la patience.
Il faut se poser, il faut regarder, il faut attendre que les choses se passent, que le regard vous croise. Tout ça, ça ne va pas du tout avec la société qu'on a actuellement, qui est une société en pleine accélération.
Oui, la photo, c'est, comme je le disais au début, c'est l'animal qui décide. Donc déjà, il faut le trouver, il faut la bonne lumière, la bonne position, la bonne attitude. Il faut qu'il se passe plein de choses, une alchimie. Sinon, la photo est banale. Et effectivement, des fois, ça m'arrive de rester des jours pour une photo. Lorsqu'on l'a, quel plaisir.
Mais cet état d'esprit, ça forme une forme de philosophie, c'est un rapport à la vie. Et aujourd'hui, on a tendance presque à ne plus avoir droit à ça. C'est-à-dire que tout est fait autour de nous pour qu'on accélère, à commencer par les téléphones, oui, comme Gershing.
Ouais, ce que vous dites me fait penser à un sociologue allemand dont la pensée prend un véritable essor en ce moment parce qu'elle est incroyablement contemporaine, c'est Hartmut Rosa, qui a écrit plusieurs livres dont Résonance, c'est l'un de ses derniers, mais il vise à réformer la théorie critique allemande, dont c'est une école de pensée théorie critique sur le capitalisme. Et il parle d'aliénation par l'accélération. Et en fait, il explique comment l'accélération permise par les techniques, notamment les télécommunications, et donc la 5G rentre pleinement dans ce cadre, provoque une accélération massive de nos rythmes de vie, c'est-à-dire le nombre d'expériences que l'on a par minute d'existence. Et qu'en fait, ça nous plonge dans une aliénation, c'est-à-dire qu'on est tellement obligé en permanence de se resynchroniser avec les autres personnes, avec le monde, parce que tout évolue extrêmement rapidement, que l'on n'est plus nous-mêmes. On n'a plus moyen d'avoir notre propre existence. Et ce que vous décrivez sur justement le temps de la photo, où s'il faut passer 3 jours derrière une roche pour saisir le regard d'un ours polaire, on reste 3 jours derrière une roche pour saisir le regard d'un ours polaire. J'ai un très bon ami qui est photographe, Nathan Rönnberger, qui justement a toujours fait énormément de photos et depuis toujours, en fait, il a appris à faire ces pauses-là, à prendre le temps qu'il fallait pour prendre la photo. Et c'est un discours qui, aujourd'hui, paraît complètement décadent. Et c'est là aussi, je trouve, c'est une sorte de...
Oui, il m'arrivait sur scène photo d'avoir une idée très précise de ce que je voulais faire et d'attendre 10 ans pour la faire. Pour réunir tous les éléments dans l'instant T, qui est des fois du microseconde, il faut savoir être patient, d'avoir tout, la lumière, tout pour que ça marche. Il faut être très patient. Et effectivement, prendre le temps permet d'observer aussi. De ressentir, de pas violer l'espace aussi. Moi, je pense qu'il faut respecter l'espace aussi. Et il faut laisser venir. En laissant venir, on a beaucoup plus de choses qu'en voulant voler. Et c'est ça qui est important pour moi.
Allez, on va prendre le temps d'une petite pause musicale en compagnie de Paul Simon. Writing on the wall, called a throne.
looks worse in black and white.
Simon Kodachrome dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du photographe Alain Hernoux qui vient de publier La sixième extinction, le règne animal en péril chez EPA et de Côme Guirschig qui vient de signer la préface de Nature humaine, un beau livre de photos aussi publié aux éditions Duchesne. Alors ces images nous rappellent la beauté du vivant dont nous faisons partie d'ailleurs, un vivant qui disparaît à une vitesse vertigineuse, nous en avons parlé, mais il y a un décalage immense entre les recommandations des experts qui préconisent de leur bureau ou comme nous ici, dans ce studio, la préservation de la biodiversité et la réalité du terrain, surtout dans les pays les plus pauvres où la population dépend des ressources naturelles pour sa survie, où les entreprises privées veulent les exploiter et où l'État n'en fait pas une priorité. Par exemple, en Guinée forestière, une biodiversité exceptionnelle est menacée par la chasse traditionnelle, le braconnage, l'activité minière, la déforestation et par l'absence de l'État qui n'a ni les moyens ni la volonté politique de protéger son environnement. Raphaël Kraft et Carole Vidal se sont rendus aux confins orientaux du pays, dans la région la plus sauvage et la moins accessible, à 1000 km de la capitale, Conakry. Rencontre avec des chasseurs traditionnels dans le village de Malueta.
Vous les étrangers venant de loin, qu'ils vous souhaitent les bienvenus parmi les citoyens de Malueta.
Les quelques centaines d'habitants de Malueta vivent dans des maisons en pisé ou en béton pour les moins pauvres. Il n'y a ici, et comme dans la majorité des villes et villages de Guinée, ni eau courante ni électricité. Nous sommes venus recueillir la bénédiction du chef du village afin de pouvoir pénétrer la forêt.
Cette forêt nous apporte beaucoup de choses. Par exemple, il y a la coupe de l'autun pour construire nos petites cases.
Il y a aussi les plantes médicinales, il y a aussi les poissons.
Oui,
il y a aussi.
Effectivement, il y a certains arbres là-bas dont vraiment ils sont utilisables pour la santé des hommes.
Et la chasse.
Oui, effectivement, parfaitement, vous avez pleinement. L'assas, oui. L'assas, c'est interdit.
Alors pourquoi tout le monde rigole?
L'assas, c'est interdit. Mais comme nous sommes à côté, il y a des cas de sacrifices, de cérémonies, un peu de ça. Sous la permission de nos éco-gaz, nous aident à au moins trouver au moins quelques animaux pour faire le sacrifice.
Il est 5 heures du matin. Quelques nuages voilent le clair de lune. Nous entamons notre marche à la lumière des lampes frontales.
Après plus d'une heure de marche, Bernard, notre guide, est obligé de se frayer un chemin à la machette dans une végétation très dense.
Notre objectif, le mont Richard Mollard, point culminant de la Guinée situé dans la chaîne des monts Nimba. Une barrière minérale de 40 km de long classée réserve intégrale, réserve de biosphère et patrimoine mondial en péril par l'UNESCO.
T'as retrouvé la piste, Bernard ? Et on se trouve où ?
Oui, maintenant qu'on est sur la piste, on rentre dans la réserve. On a quitté la zone tampon. Mm-hmm. On rentre maintenant dans la réserve de biosphère.
Et plus que 5 heures de marche, c'est ça ?
Oui, oui. Ouais.
Elle fait quelle superficie, cette réserve ?
145 200 hectares.
Sylvain Dufour, je suis spécialiste de faune sauvage et gestion d'aires protégées en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest. Je dirige une association de protection de l'environnement qui s'appelle Sylvatrop et qui travaille beaucoup en Guinée forestière, et un bureau d'études qui s'appelle Sylvatrop Consulting, et j'ai 48 ans. Bernard Doré est un des fondateurs de Sylvatrop. Et Bernard, c'est mon maître de brousse, en fait. C'est la personne qui m'a formé, qui m'a emmené en forêt, qui m'a appris à lire le sol, à lire les traces d'animaux. Il a fait de moi un tracker.
Qu'à l'époque, c'était un chasseur.
À l'époque, c'était un chasseur. C'était un très, très bon chasseur, un grand braconnier. Et mon dernier coup de fusil, il date de l'été 1988. Et j'ai remplacé le fusil par le Nikon et le 400 mm.
Qu'est-ce que les chasseurs que vous suiviez chassaient ?
En Guinée forestière, les gens, ils ont un dicton, ils disent qu'on peut manger, on peut chasser, tout ce qui ne peut pas dire ne me mange pas. Donc concrètement, un chasseur qui respecte son totem ou ses totems, s'il peut y en avoir plusieurs, bah, va chasser absolument tout ce qu'il trouve, sauf son totem. Il n'y a pas de limite, en fait.
Avec son ONG Sylvatrop, Sylvain Dufour a lancé des élevages d'Olacode, un petit rongeur très prisé pour sa viande, afin de convaincre les habitants de renoncer à la chasse. Mais il est difficile d'évaluer la portée de sa démarche. Tous ceux que nous rencontrons tiennent le même discours, déjà entendu à Malouetta. La chasse est interdite.
Qu'est-ce que vous faites, Moriba ?
Oui, je suis en train de photographier un escargot. C'est un animal sacré.
Ah bon ?
Pour les dorés. C'est l'unique totem des dorés.
Vous, Bernard, vous êtes un doré.
Ouais, ouais, je suis bien un doré.
Et vous n'avez pas le droit de manger cet escargot. Pourquoi c'est un animal sacré?
Parce que hier, du soir que mon père m'a rencontré, il a dit c'est quand une de nos tantes, dans le temps jadis, elle est morte en brousse. Mmh. On a cherché le corps, ils n'ont pas retrouvé le corps. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, ils voient les escargots alignés. Depuis les caracas de la vieille jusqu'au village, ils ont dit, ah, attention, c'est l'escargot là qui est venu nous montrer où la vieille, elle est morte. Donc maintenant, la famille dorée qui avait suivi les escargots, ils ont fait ça maintenant comme leur animal sacré, leur totem. Tout doré ne mange pas ça. Et c'est l'histoire.
Didier Bazot, vous êtes géographe, vous êtes présent en Guinée depuis 25 ans. En tout, en 15 heures de marche, nous avons croisé tout simplement un escargot. On imagine que c'était pas comme ça avant ?
Non, c'était pas comme ça avant, mais c'était pas comme ça il y a longtemps. Parce que la pression démographique en Guinée forestière est une des plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Et comme on est face à des populations qui consomment cette viande de brousse, par leur caractère animiste et chrétien, principalement, même si aujourd'hui cette population est majoritairement musulmane, il y a encore une grande habitude de consommation de viande de brousse. Cette pression s'est véritablement accrue. Un des signes les plus révélateurs, c'est qu'il n'y a plus de grands félins. Or, lorsque vous enlevez les grands félins, c'est que le prédateur ultime n'est plus là, simplement parce qu'il n'a plus, lui, de ressources pour se nourrir. Il a perdu son territoire. La pression s'est accrue pour plusieurs facteurs. D'une part, la Guinée forestière est une région extrêmement riche sur le plan agricole, mais aussi parce que sa position géographique fait qu'elle est la zone frontalière du Libéria et d'une partie de la Sierra Leone, deux pays qui ont connu des guerres civiles très importantes et qui ont occasionné l'arrivée de réfugiés, plus de 400 000 pendant plusieurs années, qui sont arrivés en deux vagues successives sur la Guinée forestière et qui ont exercé une pression encore accrue sur l'environnement. L'influence aujourd'hui des grandes religions monothéistes qui ont battu en brèche cet animisme font que sa pression sur l'utilisation rationnelle de ses ressources a disparu. Il n'y a plus de tabou, pratiquement plus.
Un kilomètre à pied, j'arrive, j'arrive. Un kilomètre à pied, Paris, j'arrive.
Un kilomètre à pied, voilà Raphaël Graff, c'est Carole Vidal qui marche dans la forêt de la Guinée dans des conditions, on l'a compris, un peu extrêmes. Hein. Il fait très chaud, c'est très humide et ça grimpe beaucoup. Alain Ernoux, je voyais bien que vous écoutiez très attentivement, presque avec de l'émotion, ce reportage.
Ah oui, je trouve que les Africains, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous transmettre aussi. Je trouve qu'il y a une culture incroyable. Et puis surtout, ils ont une relation avec la nature qu'on n'a pas du tout. Et ils se nourrissent beaucoup avec les plantes, ils connaissent davantage des choses.
Et puis cette notion de sacré.
Ah oui, ça, c'est les animistes et tout. Oui, c'est très, très, très puissant. Moi, je l'ai vécu et il faut respecter, en fait. Ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses.
Comme Gershing.
Je suis assez en ligne avec ce que vient de dire M. Ernoux, c'est cette connexion que l'on s'acharne à développer entre nous à force de technologie, etc., nous a rompu la connexion qu'on pouvait avoir avec le vivant. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de différents peuples. On a beaucoup à apprendre de ce que nous enseignent les anthropologues et les sociologues aujourd'hui. Et c'est une attention qui sera salvatrice. On n'est pas ici dans un travail de pur intérêt culturel, c'est une question de survie pour notre civilisation, de comprendre qu'avoir une forme de spiritualité envers le vivant et envers la nature n'est pas un luxe, n'est pas une utopie non plus, mais quelque chose de véritablement nécessaire pour notre survie.
Merci à tous les deux d'être passés dans le studio de C'est pas du vent. Les références de vos livres dont nous avons parlé sont à retrouver sur la page de l'émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, bien sûr, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.